Poussière et granit. Une coproduction d'Ecclesia, FM+, et Alliance+. Présentée par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de cette émission Poussière et Granit, diffusée sur 103.1 et bientôt 103.2 FM à Nîmes et dans les environs. Et aussi sur Ecclesia, dans tout le Gard, ainsi que sur radioalliance.fr où que vous vous trouviez. À la technique, Louis Esparcel. Nous commencerons aujourd'hui cette émission par une information concernant le synode national de l'Église protestante unie de France, puis nous parlerons des ateliers de la mission et terminerons avec une interview de Suzanne Chevrel, présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Un synode national en deux temps. Habituellement, le synode national de l'Église protestante unie de France se tient durant 4 jours lors du week-end de l'Ascension. Mais la situation sanitaire a obligé le Conseil national à proposer une autre organisation. Le synode national 2021 se tiendra donc en 2 sessions. D'abord, une journée en multiplex par regroupements régionaux, le jeudi 13 mai, avec 2 temps de débat sur le sujet synodal, lequel est « Écologie, quelle, au pluriel, quelle conversion ?» L'approbation des comptes 2020 et la présentation du budget 2021. Et aussi un message vidéo de la présidente, la pasteur Emmanuelle Zebold. La 2e session du synode aura lieu du 22 au 24 octobre prochain au Lazaret à 7, avec le débat sur l'ensemble des textes proposés au vote, les débats sur le rapport du Conseil national et le renouvellement du Conseil national de la Commission des ministères, ainsi que de la coordination, évangélisation, formation. Le Conseil national demande aux paroisses et aux églises locales et à tous les membres de recommander à Dieu dans leur intercession les travaux du synode. La pandémie a bouleversé la vie d'Église, mais si elle a empêché de se rassembler, elle oblige aussi à inventer de nouveaux moyens de remplir la mission de témoignage à la suite du Christ. Parlons, si vous le voulez, maintenant des ateliers de la mission. Pourquoi des ateliers de la mission? Pourquoi des jeudis de la mission? Le monde change, la mission aussi. Face à un monde plus interconnecté, mais aussi plus fragmenté, où les visions du monde et les valeurs se confrontent, voire s'affrontent, quel témoignage apporter aujourd'hui et sous quelle forme? Ce constat était à la base de l'organisation des ateliers de la mission. Il reste toujours pleinement valable, et si les conditions sanitaires rend hypothétique l'organisation d'un forum en présentiel, le passage à une série de conférences et d'ateliers en visio permettra d'atteindre un public plus large. Le monde change de plus en plus vite et notamment sur le front de la situation sanitaire. Voilà pourquoi les ateliers de la mission du DEFAP s'adaptent. Ils ont lieu non pas en présentiel et sous forme d'un forum tenu sur quelques jours, mais en visioconférence et sous la forme de 6 ateliers. L'objectif restant toujours de réfléchir aux nouveaux enjeux de la mission qui nécessitent un nouveau témoignage et de répondre à la question « Que sera la mission demain ?» Vous pourrez retrouver sur le site du DEFAP, Mission protestante, le programme des jeudis de la mission, ainsi que la bibliographie pour chaque atelier et tous les enregistrements déjà disponibles. Voici donc maintenant l'interview de Suzanne Chevrel, présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, par Benjamin Bories du service radio de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Suzanne Chevrel, présidente des éclaireuses éclaireurs unionistes de France. Bonjour.
Bonjour.
Alors Suzanne Chevrel, est-ce que le scoutisme fait toujours rêver la jeunesse aujourd'hui ?
Oui, je pense que le scoutisme fait toujours rêver la jeunesse, mais pas que la jeunesse d'ailleurs. Et on le voit aussi dans la manière dont il inspire certaines autres méthodes éducatives, le rapport à la nature, le rapport au groupe. C'est des choses qui plaisent toujours autant aujourd'hui et qui, à mon avis, sont très très actuelles. Ouais.
Il y a encore des clichés qui vous collent à la peau.
Un cliché qui peut être, est-ce que c'est pas un peu old school, est-ce que c'est pas un peu rétrograde le scoutisme, je pense qu'aujourd'hui pas du tout, le scoutisme a su évoluer avec son temps et est assez actuel par rapport aux préoccupations de la jeunesse, des enfants. On a su s'adapter sur beaucoup de choses, que ce soit et encore plus ces derniers temps sur notre relation au numérique, sur voilà des choses comme ça qui pourtant sont très loin de l'image traditionnelle du scout dans la forêt.
On peut avoir quelques chiffres du nombre d'enfants, de bénévoles qui sont engagés et comment ces chiffres évoluent avec le temps ?
Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, les éclaireuses et éclaireurs unionistes, en moyenne sur une année, c'est 6000 membres, 1500 adultes responsables et cadres qui s'occupent de faire tourner l'association, d'encadrer, et 4500 jeunes qui sont répartis en trois tranches d'âge, répartis sur toute la France avec plus d'une centaine de groupes locaux répartis sur toute la France métropolitaine.
D'un point de vue pédagogique, quelle est votre particularité ? Quels sont vos outils ?
Alors le scoutisme, ça repose sur beaucoup de choses. C'est ça repose beaucoup par l'éducation, par l'action et par le jeu. On croit vraiment que les enfants et les jeunes doivent être acteurs de leur propre progression, de leur propre moment de vie. Et donc ça, c'est assez intéressant et important parce que c'est pas forcément aussi bien mis en valeur ailleurs. Chez nous, c'est vraiment les jeunes qui sont responsables de tout au tout dans leur vie quotidienne, que ce soit la préparation du repas, l'organisation générale du camp, en se réunissant en conseil. Il y a vraiment cette particularité-là de laisser la responsabilité aux jeunes qui est très forte. Après, il y a pas mal d'autres choses aussi qui sont autour de la vie dans la nature, mais aussi dans la vie de groupe.
Alors, plus personnellement, Suzanne Chevrel, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience unioniste en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que responsable après ?
Moi, ce que j'en retire, et je pense que c'est quelque chose que je partage avec beaucoup, c'est à la fois un certain sens de la débrouillardise, mais qui se à tout niveau, c'est-à-dire que enfant c'est plus de la débrouillardise un petit peu technique, d'apprendre à faire les choses tout seul. C'est assez rare finalement que aussi jeune on soit responsable de ses affaires, de comment les choses se passent. Et après, la débrouillardise elle se reflète à plusieurs autres niveaux quand on est responsable et qu'il faut organiser des jeux, organiser des choses, avoir des contraintes un petit peu logistiques. Et aujourd'hui encore, de se dire il n'y a pas de problème trop compliqué, il suffit de se creuser un peu la tête et de trouver la solution adaptée. Et ensuite, je pense que c'est pareil, ça apporte un sens de l'optimisme et de voir les problèmes plutôt comme des défis et de trouver des solutions adaptées plutôt que de se laisser effondrer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très fort dans le scoutisme et qui est beaucoup porté aussi par tout cet esprit d'équipe et de collectif qu'on essaie de développer.
Vous avez un souvenir marquant qui vous vient là ?
C'est une question qu'on me pose souvent et j'ai beaucoup de mal à sortir un seul souvenir. Je trouve que c'est compliqué, c'est tellement de souvenirs qui sont aussi entremêlés les uns avec les autres. Moi, j'ai un peu toujours tendance à répondre que mes meilleurs souvenirs, c'est pas des choses assez incroyables ou assez extraordinaires, mais c'est plutôt ces petits moments de vie quand on est sur un camp et que les choses se passent bien et que on peut profiter ensemble, d'un coucher de soleil ou d'un moment un petit peu calme. Et voilà, c'est peut-être moins extraordinaire, mais c'est des souvenirs qui marquent, je trouve, à vie, ces petits moments de vie tout simples, mais qui sont...
peut-être une façon de redécouvrir justement la simplicité de la vie, de la nature, et des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion, et ce sont des choses que vous pouvez proposer aussi aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Et finalement de la richesse des relations humaines, sans tous les filtres qu'on peut avoir aussi, de tout simplement être ensemble et profiter les uns des autres.
Alors, en ce moment, on vit une crise sanitaire, ça n'aura échappé à personne. Comment ça vous impacte dans vos activités chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France ?
Alors, ça nous impacte évidemment à cause des restrictions. On a beaucoup d'activités qui ont dû être annulées ou reportées. Je pense que c'est important de dire que ça nous a finalement impacté moins que ce qu'on aurait pu craindre, et ça c'est vraiment grâce à l'engagement et puis à la persévérance de tous les responsables un peu partout qui ont su s'adapter, se construire des nouvelles solutions, passer à distance quand il fallait, se réadapter le format de leur sortie, parce que aujourd'hui dans les périodes non confinement, on a eu le droit de faire des sorties mais pas des week-ends comme ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, beaucoup d'adaptation. Et grâce à eux, on arrive à s'en sortir pas aussi mal que ce qui aurait pu se passer. Néanmoins, c'est sûr que c'est pas une période facile. On tourne avec des bénévoles qui commencent à être aussi un petit peu fatigués de cette situation toujours changeante où c'est difficile de se projeter. Et pareil pour les parents, on sent on a moins de nouveaux inscrits que les années précédentes, et on sent que sur les chiffres, ça a un petit impact. Donc on a un vrai objectif cet été, de pouvoir proposer des camps un peu partout, de pouvoir faire vivre de l'activité, en espérant que ça nous fasse un peu tremplin pour l'année prochaine et qu'on arrive à continuer à faire vivre toutes ces activités partout, quoi.
Alors justement, pour les camps de cet été, il y a encore des points d'interrogation, je suppose. Qu'est-ce que vous attendez de l'État en termes de règles possibles à appliquer pour vivre ces camps dans de bonnes conditions ?
Oui, effectivement, on est toujours un petit peu suspendu aux nouveaux décrets de l'État qui nous donnent un petit peu les directions et les règles. L'été dernier a été assez compliqué parce que je pense que tout le monde était dans une période d'incertitude, et du coup les règles sanitaires sont arrivées très très tard, ce qui a été compliqué pour la construction des camps. Cette année, je sais pas ce qu'il en sera, mais ce qui serait vraiment souhaitable, c'est des règles claires le plus tôt possible, et si possible, voilà, de prendre en compte les spécificités des accueils en extérieur, parce qu'aujourd'hui on voit que tous les protocoles sont vraiment faits pour les écoles ou les centres de vacances qui se passent en intérieur, et aujourd'hui nous on trouve pas le même sens à porter le masque et à rester à distance de la même manière quand on est en extérieur. Mais bon, on se pliera aux restrictions qui nous sont demandées, quoi.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est possible un camp scout avec des distanciations sociales et des masques pour des enfants ?
C'est ce qui a été fait quand même pas mal l'année dernière. Les règles étaient un petit peu différentes parce que le masque était demandé uniquement lorsque la distance ne pouvait pas être respectée. Et donc du coup, sur nos camps, les masques étaient mis lors de la préparation des repas, lors du service, lors d'activités manuelles qui nécessitaient d'être très proches. Mais dans d'autres cas où les activités, voilà, on fait beaucoup de grands jeux, où on est un petit peu à distance, où on court, qui mêle un peu d'activité physique, donc là, les masques n'étaient pas faits. Donc oui, tout est possible. Après, est-ce que c'est souhaitable et facile et pas épuisant ? C'est une autre question, quoi.
Alors, les éclaireuses, éclaireurs unionistes de France se présentent comme un mouvement protestant de scoutisme. Alors, pourquoi ? Et comment ça se vit sur le terrain ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, la dénomination précise pour nous, c'est mouvement protestant de scoutisme ouvert à tous et toutes. Mais effectivement, on se vit comme on se décrit comme un mouvement protestant. Ça se vit sur le terrain par pas mal de choses. Je pense que plus subtilement, même dans la manière dont nous sommes organisés, dont nous pensons les choses, quand on connaît un petit peu le monde protestant, on retrouve pas mal de choses. Et plus concrètement pour les enfants, en fait, on a une proposition spirituelle qui est basée sur deux types de moments forts, ce qu'on appelle les moments SPI, qui sont des moments du coup spirituels, qui sont ouverts à tous, croyants ou non, et où on va, voilà, à partir d'un texte de la Bible, réfléchir ensemble, se positionner, se questionner, et voilà, et tout ça se fait sous la forme du jeu, parce que c'est très important pour nous. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les moments de louange, qui sont vraiment des moments de louange, donc pour les croyants, mais bon, les autres sont invités aussi s'ils le souhaitent le venir, mais c'est des moments un peu plus facultatifs, où on va voilà venir chanter, prier ensemble pour répondre à cette envie, à ce besoin des enfants.
Alors sur cette base de mouvements protestants, vous avez des partenariats, notamment avec l'Église protestante Unie de France, avec qui vous organisez cet été un grand événement, un grand rassemblement de jeunes qui s'appelle Le Grand Kiff. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu quel sera le programme ?
Alors oui, du coup, cet événement, c'est effectivement le rassemblement de jeunesse proposé par l'EPUDEF sur lequel nous sommes partenaires. C'est vraiment très intéressant pour nous, et puis on est aussi très content de pouvoir vivre ce rapprochement à tous les niveaux, parce que c'est à la fois institutionnellement un super partenariat, et en même temps la volonté qui est partagée de partout, c'est de dire qu'il faut que ce soit un partenariat qui serve aussi au plus local, au groupe de jeunes et au groupe scout à se rencontrer, à vivre des choses ensemble, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans. Du coup, c'est un événement qui se déroule du 29 juillet au 2 août à Albi pour les 15-20 ans, et dont la thématique, c'est la terre en partage. Donc des réflexions qui sont très intéressantes, et dont on se sent aussi assez proche chez les unionistes, à la fois la terre en partage sur une dimension assez écologique, environnementale, et également la terre en partage plus voilà une réflexion autour de des migrations, de comment est-ce que on se partage équitablement les choses, de justice sociale, enfin voilà, beaucoup de réflexions dont on se sent proche et qui on le sait intéressent les jeunes aujourd'hui tout particulièrement.
Alors là, quand on réalise cette interview, on est le 23 avril. Quelles sont les informations dont vous disposez sur justement la crise sanitaire actuelle, ce qui sera possible ou pas possible, les plans B, les plans C de ce grand rassemblement ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement était initialement prévu pour l'été 2020 et qui avait été du coup qui a été reporté du fait de la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, au vu de la situation, on pourrait se dire oui, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Ce qu'il faut voir, c'est que cette année de report, elle a servi à faire des ajustements, des réflexions autour de cette question-là. Et aujourd'hui, l'équipe organisatrice prend vraiment en compte tout ce qui peut être pris en compte dans l'organisation, avec notamment pas mal d'aide extérieure sur les questions alimentaires et d'hygiène, ce qui peut assurer le fait que cet événement puisse se tenir dans de bonnes conditions. Donc les choses sont assez adaptées, et on sait que voilà, selon les jauges qui pourront être faites, les organisations sur place bougeront aussi un petit peu, mais on a une équipe qui est assez consciente du problème et qui adapte pour que l'événement puisse avoir lieu malgré tout dans les meilleures conditions possibles.
Donc vraiment là, l'objectif, c'est pas de reporter, c'est pas de le faire en virtuel, c'est de le maintenir en présentiel en s'adaptant au maximum.
Tout à fait, exactement, c'est ça. On sait que les jeunes en plus ont besoin de ce genre de moment après cette année et demie difficile qu'ils ont vécu. C'est aussi un grand bol d'air et un espace de liberté, de rencontre dont ils ont, à mon avis, cruellement besoin. Donc on est très très déterminés à aller jusqu'au bout sur ce projet-là.
Merci beaucoup Suzanne Brochet, présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et pour plus d'informations, rendez-vous sur votre site internet eeudf.org. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio, sur protestantpluriel.org, rubrique Radio FPF, et sur toutes les plateformes de podcast et les applis mobiles. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
C'est là-dessus que notre émission se termine. Cette émission est diffusée le mardi à 7h20, le jeudi à 12h10 et le samedi à 11h10, et puis aussi le mercredi à 10h05 sur Ecclesia. Attention, à partir du 25 mai, Radio Alliance Plus, dans votre voiture ou à la maison, c'est 103.2. pensez à régler vos postes. Au revoir.